je trouve remarquable que l'on ne se soit jamais demandé publiquement pourquoi il n'ait jamais fait mention de mes années de jeunesse. Quelle est la vraie raison d'une telle omission? Autre fait tout aussi significatif. J'ai passé 6 semaines dans le désert après mon baptême. Je suis revenu de cette expérience enseignant et guérisseur. Mais aucun auteur n'a jamais décrit ce qui s'est vraiment passé là-bas. Sauf à dire que je fus tenté par Satan, que j'étais avec les bêtes sauvages, que les anges m'accompagnaient. On n'a jamais fait la moindre allusion à ce qui m'était arrivé dans le désert. C'est pourtant l'expérience qui m'a permis de revenir dans les villes et les villages en proclamant « Le royaume de Dieu est en vous » ou d'enseigner dans les synagogues avec une autorité telle que les anciens en furent étonnés. Mes disciples s'entendirent pour supprimer la vérité sur ma personnalité, afin d'accréditer davantage ma supposée divinité et mon ministère. Selon les évangiles, on a dit de moi que j'étais le Fils unique de Dieu. Pourquoi alors ai-je souvent dit de moi que j'étais le Fils de l'homme ? J'ai expressément fait ces déclarations pour contrecarrer les croyances qui prévalaient au sujet de ma divinité et bien faire comprendre aux gens que nous avions la même origine physique. Je voulais leur faire comprendre que ce que j'étais capable de faire, ils le pouvaient aussi. Il fallait pour cela qu'ils aient la même connaissance que moi et suivent mes instructions pour penser juste et agir juste. Tant de mythes se sont créés autour de ma personne terrestre et de ma conscience spirituelle. Il est grand temps de s'en délester le plus possible, car ils bloquent l'évolution spirituelle des hommes. Vous qui avez été endoctrinés par des enseignements religieux, comprenez qu'en racontant ma vie, mes disciples évangélistes ont certes parlé de ce dont ils se souvenaient personnellement, mais uniquement si cela corroborait leur propre version de mes activités supranaturelles. Ils ont aussi inclus dans leur récit beaucoup d'épisodes que d'autres avaient racontés à mon sujet durant la 30aine d'années qui suivit ma mort. Après un tel laps de temps et soumis à l'inévitable enjolivement de la vérité, comment pouvait-il relater les véritables événements ou encore expliquer avec justesse les perceptions spirituelles qui provoquèrent mes paroles et mes miracles? Une seule personne peut en parler. C'est moi. Par conséquent, ces lettres vous révèlent ma vérité comme jamais aucun témoin n'a pu le faire, quoi qu'il ait pu saisir de ma pensée. C'est aussi pourquoi l'esprit de ma porte-parole a été purifié ces 40 dernières années de tout enseignement orthodoxe et notre système de communication perfectionné. Si ma vérité, exprimée dans ces lettres, s'éloigne de ce qui est écrit dans votre Nouveau Testament, faut-il s'en étonner ou la rejeter pour autant? J'abaisse à présent momentanément ma conscience pour m'approcher autant que nécessaire de votre plan de conscience afin de relater ma vie et mon enseignement d'il y a 2000 ans. Ma place dans l'histoire. Tout d'abord, je signale que Flavius Joseph fait brièvement référence à ma personne et à ma vie dans son Histoire des Juifs, écrite pour le gouverneur romain et présentée à l'empereur. Joseph y mentionne que Jésus, ayant tenté de renverser la loi et l'ordre, ainsi que la tutelle des Romains, a été puni et crucifié. On a prétendu qu'il s'agissait d'un autre Jésus, mais c'était bien moi, celui qui devint ultérieurement le Christ, accomplissant de soi-disant miracles de guérison et de matérialisation, était bien cet insurgé. Mais je n'étais pas un agitateur. Je n'ai pas intentionnellement incité le peuple à se soulever contre les Romains et à transgresser la loi et l'ordre établi. Je me rebellais contre les traditions juives. Je voulais aussi promouvoir un moyen plus élevé de penser et de vivre que j'ai essayé en vain de transmettre à mes compatriotes juifs après avoir séjourné 6 semaines dans le désert. Pour comprendre tout cela, il est important que vous mesuriez la pression exercée par l'opinion publique sur mes compagnons. Tout en étant persuadé que j'avais apporté aux Juifs un message de salut, que j'étais le Messie, le Fils de Dieu, ils n'en étaient pas moins de ce monde et essayaient de s'y conformer le mieux qu'ils pouvaient. Aussi, même s'ils connaissaient mes sentiments hostiles envers les croyances juives, ils ne voulaient pas renoncer entièrement à l'Ancien Testament, qui avait soutenu le peuple juif et maintenu sa cohésion tout au long de son histoire. Pour préserver ce qu'ils croyaient devoir conserver de l'ancien système, ils supprimèrent toute description relative à ma personne. Mes disciples, Paul également, ont bâti leur propre édifice de croyances sacrées sur ce qu'ils souhaitaient préserver de ma vie et de mon enseignement. Ils n'enseignèrent et ne firent fructifier que ce qu'ils estimaient important pour les gens, juifs et gentils confondus, à cette époque et pour les temps futurs. Ils ne gardèrent donc que ce qu'ils pouvaient exploiter, renonçant à la majeure partie de ce que j'avais appelé les secrets du royaume de Dieu, car ils ne les comprirent jamais. Ils jugèrent tout aussi peu désirable de garder ce que je disais sur la création d'une nouvelle perception du divin, du Père. Ils voulaient surtout préserver la croyance juive selon laquelle tout péché peut se laver par un sacrifice au temple. La personne de Jésus fut alors transmuée en sacrifice exemplaire suprême qui lave par la crucifixion tous les péchés des hommes. Cette croyance a servi de nombreux objectifs à cette époque. Elle donnait à ma mort sur la croix une explication valable et héroïque. Elle voulait prouver au peuple que j'étais le Fils de Dieu, accomplissant une mission précise jusqu'à son dernier jour. Cette croyance s'avéra aussi être de grand réconfort pour les Juifs lorsque les Romains détruisirent leur temple, et elle entraîna beaucoup de conversions. De nombreuses sectes de Juifs et de gentils ne croyaient pas à la vie après la mort. Il était donc très réconfortant d'entendre que Jésus-Christ avait vaincu la mort et conservé son corps. À cette époque, la plupart des êtres humains considéraient que la vie sans corps physique était impossible. La vie après la mort ne pouvait alors signifier que la résurrection du corps. Cette croyance eut aussi pour résultat de garder mon nom constamment vivant dans l'esprit des gens. J'étais la figure historique qui s'était courageusement sacrifié pour libérer les hommes de la crainte de l'enfer et de la damnation. Pourvu que l'on croit en moi, l'on était libéré. C'est aussi parce que mon nom est resté vivant jusqu'à aujourd'hui que je peux venir à vous et vous transmettre la vérité que je désirais tant faire connaître aux gens il y a 2000 ans. Ma jeunesse est ce que j'ai vécu dans le désert. Je suis né en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'avais rien d'un petit saint. Lorsque je fus emmené au temple à 12 ans pour être interrogé par les prêtres afin de déterminer si j'allais ou non profiter de l'enseignement religieux juif, on ne voulut pas de moi, sous prétexte que j'étais trop têtu. Amèrement déçu, ma mère me ramena à la maison et m'éleva de son mieux dans la sainteté qui caractérisait sa conduite en tout temps. C'était là tâche impossible, car j'étais, avant toute chose, un individualiste au comportement indiscipliné. Je refusais les conseils et l'autorité de ma mère. À l'adolescence, je devins ingouvernable, un véritable rebelle. Je rejetais l'adhésion inébranlable de ma mère à la foi et aux traditions juives, préférant le rire aux attitudes moralisatrices. Je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à la routine. Je choisis de me mêler aux gens les plus divers, des classes les plus défavorisées, buvant avec eux, fréquentant des prostituées, prenant du plaisir à parler, discuter, rire et fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, je travaillais dans les vignes un jour ou deux. Ou encore, je trouvais d'autres travaux qui me procuraient assez d'argent pour manger, boire et me laisser le temps libre dont j'avais besoin. Malgré mes nombreuses faiblesses humaines, mon insouciance, ma désinvolture, ma paresse, malgré mon égoïsme, mon obstination à défendre mon point de vue en dépit de ce que d'autres essayaient de me dire, j'éprouvais une grande compassion pour autrui. J'étais profondément sensible. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que j'étais hyperactif et hyperémotif. J'avais le cœur chaleureux, plein de compassion et d'empathie. La maladie, l'affliction, la pauvreté m'émouvaient profondément. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. On pourrait dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais auprès d'eux, dans un esprit de camaraderie, j'écoutais leurs malheurs, je les comprenais, et j'étais plein de sollicitude à leur égard. Comprenez mes vraies origines et ma personnalité de jeune homme, car ce furent là les éperons qui me talonnèrent et me poussèrent dans mon état christique final. Ce que je détestais et combattais le plus était la souffrance, la maladie et la pauvreté que je voyais autour de moi. Cela me rendait furieux. J'entrais dans une colère noire en voyant des miséreux, maigres et affamés, malades et estropiés, persécutés sans pitié par des dirigeants juifs. Il les accablait de lois et rites traditionnels dénués de sens, les menaçant des foudres de Jéhovah s'ils n'y obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui voulaient m'entendre que ces pauvres gens avaient un fardeau suffisamment lourd sans qu'on les écrase de surcroît, en mesures vaines les privant de plaisir. Quel était le sens de la vie si nous n'étions pas nés pour être heureux? Je refusais de croire au Dieu juste de la tradition juive. Les avertissements prophétiques bibliques du jugement de Jéhovah, son courroux contre le peuple me dégoûtaient. Il naissait dans le péché. Pourquoi donc devrait-il être jugé et condamné à une vie de souffrance et de misère parce qu'il contrevenait aux 10 commandements? Quel sens accorder à de telles déclarations? Pour moi, cette croyance juive dépeignait un Dieu cruel, et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me semblait que si une telle divinité existait, il s'ensuivait que l'humanité était condamnée à une misère éternelle. Seule la simplicité et la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines, les lacs et les montagnes me rafraîchissaient l'esprit et calmaient mes récriminations enflammées contre le Dieu juif. Par conséquent, je refusais de croire une seule des paroles que les anciens tentèrent de m'inculquer. Cependant, autour de mes 25 ans, mes pensées prirent une nouvelle tournure. Je me promenais de plus en plus souvent seul dans les collines et ma rébellion fit peu à peu place au besoin impérieux de connaître et de comprendre la vraie nature de ce qui devait certainement inspirer la création et respirer à travers elle. Je reconsidérai mon style de vie et compris à quel point mes actions avaient fait souffrir ma mère et tant d'autres. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les malheureux, ma nature rebelle m'avait poussé à me comporter de façon irréfléchie et égoïste avec ma famille. Mon amour à leur égard me submergea et soudain, je me découvris tout aussi rebelle envers mon propre comportement passé. J'entendis parler de Jean-Baptiste et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs qui venaient l'écouter, parfois depuis Jérusalem. Je décidai alors d'aller le voir pour être baptisé moi aussi. Sur le chemin du Jourdain, l'idée d'être baptisé et de recommencer une nouvelle vie me réjouit le cœur. J'avais certes des réactions émotives excessives, mais je savais aussi que j'étais né avec une vive intelligence et une grande perspicacité. Je les avais jusqu'alors mal dirigées, utilisées de façon nuisible dans les débats, entraînant les gens dans des controverses violentes. J'avais dilapidé mes talents en menant une vie d'entêté, toute de plaisir et de farniente. Il en résultait que j'avais perdu l'estime d'autrui et le respect que je me portais à moi-même. Pour la première fois, je jugeais cela intolérable. Il m'apparut qu'à l'avenir, je pouvais et devais mieux utiliser mes dons. Au lieu de créer simplement des remous, peut-être pouvais-je trouver le moyen d'alléger les soucis de ceux dont j'avais tellement pitié. Jusqu'à ce jour, j'avais été de peu d'utilité pour qui que ce soit. Mon baptême. Lorsque j'entrai dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean, je ne m'attendais pas à ressentir autre chose que du soulagement pour avoir enfin pris une décision profitable, celle de réformer mon comportement. Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour rentrer à la maison, étonner ma mère et les voisins par mon amabilité envers eux. Ce qui se passa réellement quand Jean me baptisa fut une expérience complètement différente de tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Je ressentis une vague d'énergie prodigieuse déferler à l'intérieur de mon corps. J'en fus littéralement assommé. En sortant du fleuve, tout chancelait. Je me sentis élevé en conscience d'une manière tout à fait extraordinaire. Une immense vague de bonheur rayonnant me souleva jusqu'à l'extase. J'étais dans le ravissement, conscient d'une intense lumière. Je m'éloignai du fleuve en trébuchant et marchais sans discontinuer, ne sachant où j'allais. Je continuai à avancer dans cet état second jusqu'au désert. Notez bien, mes 6 semaines dans le désert furent un temps de totale purification intérieure de ma conscience humaine. Mes anciennes attitudes, mes croyances et préjugés furent tous dissous. Le temps est venu pour moi de faire part aux gens réceptifs de tout ce que j'ai ressenti, vu, réalisé, compris. Pour vous aider à abandonner l'image archaïque d'une déité biblique, j'éviterai de parler de Dieu sous ce nom et userai de termes qui ouvrent votre esprit et l'aident à saisir la réalité derrière toute forme, couleur, son, émotion et compréhension terrestre. Ces termes revêtiront pour vous une signification de plus en plus grande au fur et à mesure que vous persévérerez dans la prière et la méditation. Ce que je ressentis dans le désert. Je fus soulevé dans une lumière intérieure radieuse et me sentis vibrant et prodigieusement vivant. J'étais rempli d'extase, de joie. Je sus sans aucun doute possible que cette puissance était le véritable créateur dont émane toute créature. Cette glorieuse harmonie intérieure, cette paix, ce sentiment d'accomplissement parfait, ce merveilleux instant qui se suffisait à lui-même, était la véritable nature de la réalité. La puissance créatrice donnant vie à la création et à l'existence. Ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert. Je fus soulevé dans une autre dimension de perception consciente, qui me permit de voir la vérité au sujet de l'existence. Je vis, avec lucidité et clarté, ce qui était réel et ce qui était faux dans la façon de penser de l'homme. Je réalisais que cette puissance créatrice que j'expérimentais était infinie, éternelle, universelle, remplissant tout espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de toutes choses vivantes. Je vis que cela était la puissance de l'esprit. Cela était la puissance créatrice de l'esprit. Il n'existait nul lieu où cette divine puissance créatrice de l'esprit ne se manifestait pas. Je réalisais que l'esprit humain émanait de l'esprit créateur divin, comme une bougie allumée par le soleil. Par moments, ma vue humaine était spirituellement si élevée que je voyais au travers des rochers, de la terre, du sable. Il me paraissait alors n'être qu'un scintillement de poussière microscopique. Je réalisais que rien n'était réellement solide. Au moindre doute qu'il pût en être ainsi, les changements dans le phénomène cessaient. Beaucoup plus tard, je découvris que mes pensées, imprégnées d'une forte conviction, pouvaient opérer des changements dans le scintillement de poussière, que la science nomme aujourd'hui des particules chargées électriquement, et donc modifier l'apparence du rocher ou toute autre chose que j'observais. À ce stade, j'en vins à réaliser l'effet puissant que peut avoir sur l'environnement une conviction ou foi inébranlable lorsqu'elle s'exprime par un ordre ou même une simple croyance. Le plus saisissant, c'était de réaliser en totale ouverture d'esprit, en état de conscience cosmique, que tout ce dont j'étais témoin était réellement la puissance créatrice de l'esprit divin lui-même, rendu visible dans ce scintillement de poussière infinitésimale. Et mieux, de découvrir que l'activité de la pensée humaine pouvait profondément affecter son apparence. Je réalisais qu'il n'y avait rien de solide dans l'univers. Tout ce qui était visible était la manifestation d'un certain état de conscience qui déterminait la composition et la forme de ce scintillement de poussière. Ainsi, toute forme extérieure était l'expression de la conscience intérieure. Je réalisais que vie et conscience n'étaient qu'une seule et même chose. Il était impossible de dire « ceci est de la vie et cela de la conscience ». La conscience était vie, la vie était conscience, et toutes deux étaient la puissance créatrice, l'esprit divin universel au-delà, dans et derrière l'univers. Je réalisais que les hommes attribuaient une importance démesurée à l'individualité et à la forme. Ils ne pouvaient imaginer que l'esprit et l'intelligence puissent agir de façon tangible, autrement qu'au moyen de la forme individuelle. C'est pourquoi les Juifs avaient créé l'image mentale d'un immense être suprême, doté de tous les attributs, positifs et négatifs, de l'être humain. Les prophètes croyaient au courroux de Jéhovah. Ils évoquaient ses menaces de punition, ces épreuves qui survenaient sous forme de maladies et d'épidémies en punition de l'entêtement des humains. Mais ces images mentales, réalisais-je, étaient des mythes. Elles n'existaient pas. Je perçus qu'en tout domaine de l'existence, c'était l'esprit, l'expression de l'intelligence, qui était la source même de la création et de l'homme. En conséquence, la Genèse devait être reformulée ainsi. Avant toute création, était l'esprit universel, la puissance créatrice, derrière et en la création elle-même. Ayant vu avec une telle clarté et sans aucune équivoque que la puissance créatrice de l'esprit universel était partout, dans l'infini des cieux et sous sa forme active dans les formes terrestres, je reçus intérieurement l'ordre de regarder autour de moi. Il n'y avait que du gravier et des rochers. Soudain me fut présenté le tableau d'un paysage superbe, où poussaient toutes sortes de plantes, buissons et arbres que l'on puisse imaginer, où des oiseaux voltaient, des animaux pâturaient. Regardant cette vision avec stupéfaction, je vis que les plantes et les arbres, chacun d'eux, oui, même les oiseaux et les animaux, étaient en réalité composés de centaines de communautés d'entités infiniment petites, que vos scientifiques modernes appellent des cellules. Elles œuvraient continuellement, dans un esprit de coopération totalement harmonieux, pour produire la substance et les divers organes du système intérieur et de l'apparence extérieure de l'entité vivante complète. Je contemplais cette prodigieuse activité pendant très longtemps, bien que le temps n'eût plus aucune signification pour moi. Tout en contemplant ce qui m'était présenté, je pensais, qui aurait deviné qu'à l'intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, règne une aussi intense activité de minuscules communautés d'entités, travaillant en coopération pour donner vie, forme, nourriture, guérison, protection et longévité au corps de tant d'espèces différentes. C'était l'accomplissement intelligent du travail qui attirait mon attention. Ainsi, le travail, réalisais-je, se fondait dans l'activité de la puissance créatrice, depuis la moindre entité, ou cellule, à l'intérieur des systèmes vivants jusqu'à l'entité la plus évoluée dans l'univers, l'homme lui-même. Dans le système de tout être vivant, le travail s'effectuait en fin de compte sous la direction de la puissance créatrice divine, en laquelle se trouvaient tous les plans et desseins de la création. Je vis que tous ces plans et desseins étaient en réalité des formes de conscience et pouvaient s'appeler des paroles, puisque chaque parole signifie une forme de conscience très particulière. Ainsi se manifeste dans le monde visible la parole originelle de la conscience de la puissance créatrice. La parole, et par conséquent le modèle de conscience, existe dans l'esprit créateur divin et se reproduit en permanence. Je compris alors que chaque chose dans l'univers vivait, se mouvait, avait réellement son être dans la puissance créatrice de l'esprit universel, infini et éternel, seule réalité véritable derrière toutes les manifestations de forme individualisée. Je sentis monter en moi un flot de louanges, célébrant toutes les choses de ce monde, à la fois issues et imprégnées de cette suprême puissance créatrice de l'esprit divin. Je m'émerveillais de cette activité secrète qui se produisait sans cesse en toute chose vivante, corps humain y compris. Je me demandais comment il se pouvait que toutes ces unités infiniment petites puissent travailler en totale intelligence, selon des plans spécifiques, pour produire infailliblement les formes proposées, troncs d'arbres, feuilles, fleurs, fruits, insectes, oiseaux, animaux et êtres humains.